Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Méditez deux textes cet après-midi, si vous voulez bien me suivre, ouvrir votre Bible. Alors, le premier passage, c'est David, le roi David, le roi poète, qui nous raconte son histoire et qui nous dit en substance ces quelques mots. Et nous allons donc prendre le psaume 103, et lire quelques phrases. Et si David a écrit cela, c'est que c'était son expérience. Dans d'autres passages, eh bien, David nous fait part qu'il a été parfois très malade jusqu'à mourir. Et puis, on connaît cette fameuse histoire du psaume 51, qui était et qui met en évidence notre sujet cet après-midi, ce qu'il peut y avoir, la liaison qui peut être faite entre nos fautes et leurs conséquences, entre nos fautes que nous pouvons commettre en tant qu'hommes, et puis également, eh bien, ce qui peut en résulter parfois dans notre vie, mais aussi le pardon de Dieu. Il y a trois éléments à prendre en considération, nos chutes, nos fautes, naturellement, ça c'est le premier. Ensuite, les conséquences. David dira expressément qu'il a été malade parce que, véritablement, il s'est trouvé dans une situation où il n'a pas obéi à Dieu. Il a même désobéi d'une manière très caractérisée à Dieu. Et puis, il nous dira également qu'il a trouvé le salut de Dieu, le pardon de Dieu, et tout à nouveau la guérison, la santé, à travers sa démarche qu'il avait faite auprès de Dieu. Alors, c'est ce qu'il nous est expliqué dans le psaume 103, verset 1er. Il nous est simplement donné, donc, psaume de David. « Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Écoutez bien, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, tes péchés, tes fautes, tes erreurs. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, de la mort, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle, qui nous donne les forces perdues, qui nous redonne, eh bien, la santé dont nous avons besoin. Mais je m'arrête sur ce passage quand il est dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit tes maladies. » Il y a une liaison à faire, vous l'avez compris, entre le pardon de Dieu nécessaire à toute âme, à tout homme, à toute femme. Dieu pardonne nos fautes. Et conséquence, c'est qu'il nous rétablit dans la santé. Il nous redonne cette santé que nous avons perdue, souvent à cause de nos erreurs, de nos fautes et de tout ce que nous avons pu commettre pour sortir de la voie qui nous a été impartie, que nous connaissons et que notre conscience, eh bien, nous a signifié, nous a tout simplement, eh bien, alerté comme étant quelque chose de mal. C'est lui qui pardonne tes fautes et c'est lui qui te guérit, dans le sens où ça commence par le pardon et ensuite ça se poursuit par la guérison, un rétablissement. Nous avons dans l'histoire de l'Évangile un texte tout à fait approprié qui nous est rapporté par à la fois, c'est un texte important parce qu'il est parlé trois fois, une fois dans l'Évangile de Matthieu, une fois dans l'Évangile de Luc et une fois dans l'Évangile de Marc. Et nous allons lire dans l'évangile de Marc, eh bien, cette fameuse histoire qui illustre bien l'expérience de ce psaume dans l'ordre où véritablement, eh bien, il y a une action de Dieu dans notre vie, et une action puissante qui rend la vie aux hommes qui sont malades, malades physiquement, malades moralement. Alors, dans Marc, chapitre 2, verset 1er, on va reprendre ce beau message, parce que c'est un beau message et ça peut faire du bien à quelques-uns d'entre nous, sinon à tous. De toute façon, ça nous fait du bien aux uns et aux autres. Voilà. Je lis ces lignes. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Vous savez, Capernaum, c'était sa ville, hein, en Galilée, où il a fait ses premiers miracles, où il a fait beaucoup de choses d'ailleurs. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Il prêchait, il apportait le message du royaume de Dieu. Voilà que est survenu des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme il le portait, comme il ne pouvait l'aborder, à cause tout simplement de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je vous l'ordonne, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais vu rien de pareil. » Voilà pour notre lecture. Le psaume 103, et j'y reviens avant de faire le commentaire de cette deuxième partie, eh bien, cette déclaration qui nous est donnée, c'est lui qui pardonne tous tes péchés, tes iniquités et guérit tes maladies. Nous avons, eh bien, l'application grandeur nature, nous pourrions dire, eh bien, de ce principe. Nous voyons là, dans ce texte de Marc, que Jésus pardonne et il guérit, accordant à l'homme paralytique qui se présente, que l'on va présenter devant lui, eh bien, accordant à cet homme la vie. D'abord la vie physique, puisqu'il va se retrouver en santé, paralysé, il va se mettre à marcher, le miracle naturellement, et également une dimension de salut, une dimension d'une vie spirituelle. Et nous remarquons une chose, c'est que la guérison va être précédée par une restauration intérieure de cet homme avant tout. Et c'est ça ce qui est important. Il y a, depuis toujours, certainement des millions et des millions de gens, auditeurs de l'Évangile, qui ont fait cette expérience. C'est que Dieu veut nous guérir à l'intérieur avant de nous guérir à l'extérieur. Parce que finalement, nous allons le découvrir, souvent, ce qui nous rend malade, c'est le désordre, ou tout simplement l'altération de notre vie profonde. Ça ne se voit pas, la vie profonde. Notre âme, notre cœur, notre conscience, hein, ça c'est la vie intérieure, c'est notre moi profond en quelque sorte. Et il y a une relation parce que nous sommes des êtres que Dieu a créés, et c'est ce qui fait la particularité de l'homme, c'est qu'il y a une conscience. Et à partir du moment où l'homme, pardonnez-moi l'expression, c'est pas très beau, mais à partir du moment où il y a une altération ou détraqué de l'intérieur, eh bien finalement il y a des conséquences sur l'extérieur. Ça nous ne le pensons pas toujours. Et pudiquement, médicalement, on appelle ça des maladies psychosomatiques. Ouais, vous avez entendu parler de ça, hein? Voilà. C'est-à-dire que il y a des conséquences. Il y a finalement un désordre extérieur, inexpliqué ou inexplicable, mais qui peut s'expliquer par, finalement, eh bien là, un mal interne. Et il faut commencer, Jésus nous apprend quelque chose, c'est qu'il faut commencer d'abord par l'intérieur, pour qu'ensuite l'extérieur eh bien, se redresse, qu'il puisse retrouver la santé. Et ça, c'est une grande nouvelle, parce que nous voyons que Jésus va procéder de cette manière, et nous l'avons lu. Je voudrais insister sur le fait que, et Jésus nous donne les choses dans l'ordre, Jésus va pardonner les péchés, donc, de cet individu avant de le guérir. Oui. Je me souviens, et je le rappelle, particulièrement pour ceux qui nous rejoignent cet après-midi, vous qui avez l'habitude de venir dans les réunions, m'avez souvent entendu le dire, je me souviens de cette histoire dans une autre église où nous avions une personne qui avait 35-40 ans et qui était en phase terminale de cancer. Et elle était venue parce qu'elle avait reçu le témoignage d'un membre de sa famille de lui disant, bien écoute, voilà, nous sommes désespérés de ton cas, les médecins désespèrent de ta situation, on ne sait plus quoi faire, mais je vais dans une église, je vais dans un lieu où on prie pour les malades. C'était tout simplement un centre évangélique comme celui-ci, hein. C'est dans la ville d'Angers. Et cette personne, elle était véritablement dans les derniers jours de sa vie. Alors elle est venue, elle a cru. Elle avait plus rien à perdre, hein, vous savez. Elle n'a plus rien à perdre quelquefois dans certains cas. Alors que bon, elle était, bon, finalement, elle avait ses croyances religieuses. Et elle est venue. Et le pasteur, donc, a prêché l'évangile, tout simplement. Et à un moment donné, ce que nous avons et ce que nous faisons très régulièrement, c'est que nous prions pour les malades au terme de nos réunions. Comme Jésus l'a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Évangile de Marc. Hein. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà, ça c'est le grand classique de nos rassemblements. Hein. C'est ce que nous faisons. Et cette femme, avec dans un effort surhumain, alors qu'elle était vraiment dans un état pitoyable, est venue à l'imposition des mains pour que l'on prie pour elle. Et le prédicateur, le pasteur, lui a demandé « Qu'est-ce que vous voulez, madame ?» Cette femme a répondu tout simplement, sachant qu'elle allait mourir, « Je veux que Dieu me pardonne de mes péchés. » Elle n'a pas demandé sa guérison. Oui, elle aurait pu, puisque j'entends parler que Dieu guérit, que Jésus peut faire des choses extraordinaires, et des choses inouïes même. Elle n'a pas demandé à être guérie. Elle a dit « Voilà, maintenant, parce qu'elle était convaincue qu'elle allait mourir. » qu'elle allait partir. Et à ce moment-là, elle a dit au pasteur, « Ben voilà, je voudrais que vous priez pour moi, parce que, sous-entendu, je vais mourir, je voudrais que Dieu me pardonne de mes péchés. » Le pasteur a prié. Il a prié pour qu'elle soit pardonnée de ses péchés. Cette femme est repartie comme ça, tout simplement, dans les mêmes conditions. Elle a rappelé le lendemain ou le surlendemain, en disant au pasteur, « Écoutez, moi je voudrais vous dire, mais je suis délivré, j'ai été guéri de mon cancer. » Elle n'avait pas demandé l'objet d'être guérie de son cancer, elle avait demandé d'être pardonnée de ses péchés. Et ça a été constaté par la médecine. Nous la connaissions bien, elle est décédée maintenant. Elle avait 35 ans, elle est morte il y a à peu près 5 ans. Elle avait dépassé, je crois, les 90 ans. C'est une personne, c'était une grande figure de l'Église. Et elle avait fait constater après par les médecins ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette femme que nous avons constatée, ça remontait dans les années 60, ça, hein, sa maladie, hein, même avant 55, et les médecins ont dit, on ne comprend pas, il est arrivé un miracle dans votre vie. Et ça étaye bien l'histoire que nous avons lue. Ça met véritablement en évidence le principe que nous avons lu, c'est lui qui te pardonne de tous tes péchés et qui te guérit de tes maladies. Et vous voyez, cet homme, il n'a pas demandé la guérison la guérison de son mal. Jésus, d'emblée, lui a dit, je te pardonne de tes péchés. Et ce qui montre à l'évidence que quand Dieu nous touche, il sait par quel côté nous toucher. Beaucoup de gens viennent en disant, voilà, je souffre de tel mal, que Dieu me guérisse. Mais peut-être qu'il y a une guérison préalable, celle qui ne se voit pas, celle dont on ne pourrait pas soupçonner, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes. Et je me souviens de notre brave amie, elle a vécu, oh oui, elle a vécu 40 ans de plus, hein, il me semble, 40, 45 ans de plus. Et elle ne s'est jamais ressentie de sa maladie de cancer. Et elle est devenue, figurez-vous, en quelque sorte une des plus fidèles de la communauté évangélique d'Angers. Ouais. Et on l'aimait bien parce que elle avait une joie, une foi en Dieu extraordinaire. Et elle remontait le moral à tous ceux qui venaient là. Ah bah oui, quand on vit des choses comme ça, c'est extraordinaire. Comme quoi, eh bien, ce que Jésus nous dit, ou David nous dit, c'est-à-dire que c'est lui qui nous guérit à l'intérieur pour nous guérir à l'extérieur. Et puis, combien d'entre nous, peut-être moi le premier, quand j'ai découvert le Seigneur, c'est ce qu'il a fait aussi, hein, me guérir à l'intérieur, et puis après ma vie a été complètement bouleversée et changée. Hein. Et ça, c'est extraordinaire, il y a Dieu qui peut faire ça. Ce qui montre que dans notre texte, hein, la guérison divine, ouais, il faut en parler cet après-midi. Il faut en parler dans notre monde où il y a tant de malades, où il y a tant de désespérés, où les cliniques et les hôpitaux sont encombrés. Oui, eh bien, il faut parler que tout en reconnaissant les capacités, la commisération aussi des gens qui soignent les autres, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais là où il n'y a plus d'espoir, là où véritablement nous sommes devant un mur et que nous ne pouvons pas aller plus loin, alors il faut regarder vers le ciel. Et là, du ciel, le Seigneur est capable de comprendre notre détresse. Vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est l'histoire que nous sommes en train de raconter. Alors, dans l'ordre, Jésus va pardonner les péchés de cet homme avant de le guérir. Et que dire d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel où il y a tant de souffrances, tant de gens qui tournent en rond, tant de gens qui soupirent. Et nous nous apercevons que les problèmes les plus graves ne sont pas toujours les plus visibles. Là, il y a une graduation. Pour Jésus, s'il a dit « mais tes péchés sont pardonnés », c'est qu'il croyait que, et Jésus était convaincu, que le vrai problème et le problème le plus grave, c'était le pardon de ses péchés avant sa paralysie. C'est la Bible qui nous le dit. Pour confirmer que Jésus va s'attaquer à la racine du mal avant de se tourner vers les symptômes. Et c'est pour ça que vous êtes ici cet après-midi. Parce qu'il ne s'agit pas d'une consultation médicale. Je vous le rappelle, je ne suis pas docteur, je suis pasteur. Faut pas confondre. Et surtout, n'attendez pas de moi que je vous fasse une ordonnance. Si, la seule ordonnance que je peux vous dire, c'est lisez l'Évangile et approchez-vous de Jésus. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Mais toujours est-il que le pardon des péchés aura pour conséquence finale et a pour conséquence finale la solution à nos problèmes de santé. Et nous nous apercevons que il y a là une œuvre de Dieu qui se fait. Quelques jours après, Jésus vint à Capernaum, on apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte où il était ne pouvait plus les contenir. Et qu'est-ce que faisait Jésus à ce moment-là? Il annonçait la parole de Dieu. Ça commence toujours par là. Il annonçait la parole de Dieu. Comment peut-on avoir la foi? En allant murmurer quelques prières dans un édifice religieux? Non. Mais en écoutant la parole de Dieu, si vous êtes venu et si vous avez pris peut-être un peu de votre dimanche pour dire, eh bien moi je vais donner un quart d'heure, trois quarts d'heure, ou je ne sais pas moi, une heure, pour venir écouter l'Évangile, ou peut-être dans ma vie privée, dans ma maison, lire la Bible, lire les belles histoires de Jésus, eh bien écoutez, vous êtes en train de vous préparer pour découvrir la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas de la parole de l'homme qui parle, mais c'est l'homme qui parle de Jésus, et qui parle de Dieu et de son royaume. C'est ça ce qui donne la foi. Alors, donc, il y avait beaucoup de monde à la porte de cette maison, on se bousculait, et tout à coup, il y a des gens qui sont survenus, alors que Jésus était dans la maison, il était en train d'annoncer la parole de Dieu, il y avait probablement dans l'espace de cette maison, eh bien là, un monde fou, hein. On s'était tassé dans la maison, et il y en avait dehors, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas rentrer. Donc, il y avait un bel attroupement à ce moment-là. Et voilà que des individus vont venir, ils sont venus pour entendre Jésus, ils sont arrivés trop tard parce qu'il n'y avait plus de place, mais il n'est jamais trop tard. Ils amenaient avec eux un paralytique, et ce paralytique, ce pauvre homme qui était dans cette condition misérable, était porté par quatre hommes. Il était sur son comment on appelle ça, un grabat, hein, c'est ça? Hein? Et il y avait quatre hommes qui le portaient pour que on vienne le présenter devant Jésus, pour que Jésus fasse quelque chose pour lui, prie pour lui, ou lui impose peut-être les mains, parce qu'on avait confiance tout simplement. Et il nous est dit en substance, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, on vient de le dire, alors à ce moment-là, ils ont eu cette idée géniale, qui n'est pas à faire chez vos voisins, vous avez compris, parce que, attendez, vous risquez d'avoir... Vous risquez d'avoir des tuiles et des ardoises. Enfin, en tous les cas, une ardoise après. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ne pouvant pas regarder, ne pouvant pas rentrer, ils ont regardé à droite et à gauche, il y avait du monde partout, il y avait du monde dedans, il y avait du monde derrière, enfin, dedans, partout, à l'extérieur. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce que l'on peut faire? Si on ne peut pas passer comme ça, on va passer par le toit. Parce que vous savez que les maisons en Orient, ce sont des maisons avec des toits plats. Hein. Voilà. Donc, ils ont eu l'idée, ils ont demandé au propriétaire. Ils découvrirent le toit de la maison où Jésus était, donc à l'intérieur, et ils descendirent. Quelle audace! Ils descendirent par cette ouverture qu'ils avaient faite, le lit sur lequel le paralytique était couché. C'était pas un petit trou, hein? Quand vous descendez un lit, enfin, quand vous descendez là une civière, ça représente, moi je ne sais pas, moi, 60 cm sur peut-être 2 mètres. Puis alors, faut faire de l'espace, hein? Je m'imagine, parce que moi je m'imagine beaucoup, mais enfin, je m'imagine que les gens qui étaient au-dessous, avec des toits en chaume, enfin des toits en torchis, des choses comme ça, ils ont dû se laver la tête après, parce que ils ont dû faire du... Ça vous fait rire, hein? Ben, faites pas ça chez vos voisins, parce que vous dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit, parce que moi je suis responsable de rien. Hein? Mais ils ont dû en prendre plein la tête, enfin, plein le dessus de la tête, hein? Des morceaux de paille, des morceaux de torchis, etc., etc., mais c'était le seul moyen. Mais ça prouve quoi? Que déjà, pour l'amener, quatre personnes remplies de commisération pour leur ami qui ne pouvait pas marcher et de lui servir de jambe pour pouvoir aller vers Jésus, parce qu'il tenait vraiment cet homme à aller voir Jésus, en disant « si je vais voir Jésus, Jésus va me guérir ». Ça, c'est la foi. Et puis ses amis qui ne se sont pas laissés décontenancer parce qu'il n'y avait plus d'ouverture, parce qu'on ne pouvait pas le passer par la porte ni par la fenêtre, ils se sont dit « on va le passer par le toit ». Ça a dû perturber la réunion. Imaginez-vous que quelqu'un soit en train de gratter au-dessus de ma tête, en train de démonter les plaques du faux plafond, hein, et me tomber dessus, là, comme ça, d'un seul coup. Il s'est fait de la place à ce moment-là. Il n'y avait pas de place dans la maison, mais je peux vous dire que quand la civière est descendue, personne ne voulait prendre la civière sur la tête, hein, même si elle descendait lentement, tout le monde s'est dégagé pour mettre au pied de Jésus. Il est arrivé au bon endroit, Jésus, vous vous rendez compte? Au bon endroit et au bon moment et auprès de la bonne personne. Faut pas se tromper, hein. Alors, c'est comme ça que les choses se sont passées, sur lequel le paralytique était couché. Et voilà qu'il y a quelque chose qui est très intéressant. Il nous est dit, Jésus voyant leur foi. Est-ce que Jésus serait intéressé cet après-midi de voir votre foi à vous? Comment vous feriez la démonstration de votre foi? Comment pourriez-vous prouver que vous avez la foi en Jésus? Peut-être certains répondront, mais je suis venu cet après-midi pour écouter la parole de Jésus. C'est déjà une démonstration de foi, hein, parce qu'il faut le faire. Vous pourriez regarder, moi je ne sais pas, il y a toutes sortes d'émissions à la télévision. Vous pourriez faire un petit jogging sur le bord de la mer. Hein? Il y en a qui vont le faire après, mais bon. Mais bon, toutes sortes de choses. Voilà, mais c'est une détermination. Pourquoi? Quelle est votre motivation? Pourquoi êtes-vous venu? Parce que peut-être on vous a invité. C'est déjà la foi. Et ils ont vu la foi de ces quatre hommes, plus leur pauvre ami qui était paralytique. Jésus voit notre foi. Il voit notre détermination. Il voit notre besoin de quelque chose reçu de lui, surtout. Alors il a vu leur foi. Et là, il s'est tourné vers le paralytique, puisque c'était quand même lui qui était l'objet de tout ce remue-ménage, on peut dire. Et il s'est adressé et il lui a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Trois mots. Mon enfant. Jésus n'accuse pas cet homme, parce qu'il lui parle d'emblée de ses péchés, de ses fautes, de ses erreurs de vie, peut-être d'une vie de patachon, peut-être de tout ce qu'il a pu commettre d'injuste et d'inique. Jésus lui dit, mon enfant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Jésus, il ne fait pas de reproche lorsque nous venons à lui dans une position ou une disposition de foi. Non. Et je pense que c'est votre cas. Ouais. Est-ce que vous ne seriez pas là cet après-midi? Aucun reproche, et c'est même un terme affectueux. Un terme d'amour, en tous les cas de compassion s'il en est. Mon enfant, il lui dit d'emblée, tes péchés sont pardonnés. Vous avez remarqué que l'homme ne demande rien. Ouais. Il vient pas lui dire, hein, tout simplement là, hein, allongé sur sa civière, écoute, moi j'ai un problème, j'aurais que je n'en peux plus, je suffoque dans ma vie intérieure, j'ai vraiment besoin que tu me pardonnes. Voilà. Il ne demande rien, et Jésus le sait. Il sait parce qu'il va nous montrer encore une autre leçon, celle de la guérison physique, en quelque sorte. Et il lui dit, mais tes péchés sont pardonnés. Et je crois que Jésus, quand il lui dit cette petite phrase, il le dit pour cet homme. Mais il le dit également pour les détracteurs, pour ceux qui s'opposent, pour ceux qui sont ses adversaires, les pharisiens et les scribes, qui sont toujours en train de murmurer contre Jésus, parce que Jésus les dérange, parce que Jésus les embarrasse, parce que Jésus véritablement est en train de mettre par terre toute leur stratégie religieuse, tout ce qui finalement, eh bien, ne sert pas à grand chose. L'être morte, on peut dire ça comme ça. Tes péchés sont pardonnés. Et c'est pour ça que les choses sont dites. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, toujours les premières places, hein, vous avez remarqué, hein, jamais les dernières, c'est toujours les premiers, et qui se disaient entre eux, ah oui, ils sont en train de murmurer, mais comment, en parlant de Jésus, mais comment cet homme parle-t-il ainsi? À vrai dire, je vous dirais qu'ils sont scandalisés, ils sont outrés, comment pourrait-on dire? Je cherche le mot, mais ça va venir. Ils sont complètement scandalisés. Oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc j'affirme et je confirme. Voilà. Ça vous fait rire. Mais toujours est-il qu'ils ne supportent pas que Jésus parle de cette manière. Mais en quelque sorte, si je fais les gestes, ces scribes et ces gens religieux, ils se disent, mais comment a-t-il le toupé ce Jésus? Ce prédicateur de Nazareth, comment et qui se croit-il pour dire, eh bien, moi je suis capable de pardonner les péchés des hommes? Pour qui se prend-il? Alors ça, je peux vous dire que ça, c'est un véritable ouragan que Jésus déclenche, enfin, dans l'esprit des scribes. Mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Et ils vont dire tout de suite, il blasphème. Eh oui, l'étroitesse d'esprit, ils ne veulent pas chercher à comprendre. Jésus est un blasphémateur. Et un blasphémateur en Israël, de ce temps-là, eh bien, c'est quelqu'un que l'on va lapider, c'est quelqu'un qu'on va tuer. Parce que c'est le plus grand de tous les péchés, le blasphème, pour les Juifs. Eh oui. Et il y en a qui sont passés, hein. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Est-ce qu'ils ne savent pas, ces pauvres gens? Ces gens qui se prétendent avoir la connaissance, la science infuse, les conducteurs des âmes des autres, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus est Dieu. C'est que Jésus est Dieu, que Jésus est leur Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Rédempteur, qu'il est le Créateur, qu'il est le Sauveur, mais ils ne le voient pas, il n'y a qu'eux qui ne le voient pas. C'est terrible cet aveuglement, hein. Et vous savez, l'aveuglement, il est lié à deux choses dans la vie des hommes. L'incrédulité, je ne croirai pas ça, je ne veux pas croire ça, ça c'est l'incrédulité. Et la deuxième chose qui va avec, c'est le cousin germain, c'est le préjugé. Parce qu'on juge avant, on juge sans savoir, on juge et on ignore, mais on juge quand même. C'est le problème qui a été fait, c'est le procès qui est fait à Jésus, et qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul. Alors Jésus, qui sait tout, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Eh oui, le Seigneur connaît tout. Dans la Bible, il nous est enseigné que Jésus est omniprésent, il est présent partout, il est omnipotent, il est tout-puissant, et qu'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Très souvent, il y a des textes comme ça dans l'Écriture, vous les trouverez en lisant, hein, tranquillement, vous verrez que ces grandes vérités du caractère même de Jésus, de ses attributs divins, eh bien c'est ça, toute-puissance, toute connaissance, et la présence en tout lieu. Voilà, on n'a pas besoin d'aller ici ou là pour rencontrer Jésus. On le rencontre là où on est, tout simplement. Dans la mesure où on accorde notre cœur avec lui, par une simple prière, une parole de foi. Simplement, il est là le Seigneur. Il est là cet après-midi, vous le croyez? Eh oui, il est là. Hein. Moi, je suis tout à fait convaincu. Hein. Parce qu'il nous l'a dit. Enfin, il me l'a dit. Enfin, il vous le dit aussi. Là, où deux, ou trois sont réunis en mon nom. Qu'est-ce que vous dites? J'ai rien compris. J'ai toujours rien compris. Il est au milieu de vous, hein? Ben ouais. Mais moi, je vous dirais qu'il va encore mieux. Il est même pas au milieu de vous, il est en nous. Parce que le Seigneur veut habiter notre vie. Là où il y a de la foi, eh bien, c'est véritablement son habitation. Alors, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Et là, Jésus va retourner, parce que quand on parle de tous ces attributs divins, Jésus se caractérise par une science qui dépasse la nôtre. Hein. Nous, on cogite, on essaie de trouver toutes sortes de, par des calculs, etc. Mais Jésus, lui, il sait tout. Et il dira, mais lequel de vous est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous remarquerez à ce moment-là, c'est une conversation entre Jésus et puis ses détracteurs avec les scribes. Le pauvre garçon qui est sur son lit, qui attend, il dit, mais je comprends pas moi tout ça, hein. Ben oui, parce que c'est lui qui va être l'objet de tout ça, mais il va être la démonstration extraordinaire et formidable du pouvoir de Dieu, quelque part. Eh oui, c'est pour dire que quelque part, dans certaines mesures, c'est que c'est au travers de sa paralysie qu'il va trouver la guérison et son salut. On dirait, mais, ah, il m'est arrivé une chose épouvantable, je suis malade. Mais ça sert à quoi la maladie? Pourquoi je suis paralytique? On est venu un jour poser la question à Jésus pour dire, mais pour un aveugle, mais est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit devenu aveugle? Jésus dira, mais dites donc, vous comprenez rien à rien. Hein. C'est ni ses parents ni lui-même, parce qu'il était, il était aveugle de naissance. Alors avant la naissance, c'est difficile de pécher, non? Et Jésus va faire la démonstration de cet homme qui est aveugle en lui ouvrant les yeux, en disant, regardez, voilà, il fallait délivrer cet homme, il fallait délivrer ce, lui qu'il puisse recouvrer la vue. Alors, on a cet aspect des choses. Il est en train de regarder les uns et les autres qui se, au-dessus de sa tête, ça, quelque part, cette discussion qui était une discussion peut-être théologique pour lui, et qui avait certainement une répercussion dans son cœur. Il savait bien ce qu'il avait fait. Lequel de vous est le plus aisé? Vous qui êtes en train de critiquer, vous qui êtes en train de juger, qui êtes en train de me juger pour savoir si je suis capable de pardonner les péchés ou si je suis capable de guérir. Mais pour qui vous prenez-vous? Est-ce que c'est plus facile de dire une parole en l'air? Je te pardonne tes péchés. Parce que le pardon des péchés, c'est pas visible. Mais par contre, un homme qui est paralysé et qui se lève et qui se met à marcher, ça devient visible. Donc, l'un confirme l'autre. C'est ce que Jésus va faire, d'ailleurs. Il va lui dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, comme moi, Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se lève, prend son lit et sortit en présence de tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous en pensez du bien? Oui? Ben oui, ben oui, c'est quelque chose, c'est une histoire formidable qui nous est racontée. Ben oui, écoutez, il y a ce que nous avons mis comme principe au départ. Quand David nous dit, mais c'est Dieu qui est capable de pardonner nos péchés et qui est capable aussi de nous guérir de nos maladies. Eh bien, voilà le thème, voilà la démonstration, voilà ce que Dieu est capable de faire. Parce que c'est vrai, parole en l'air, c'est facile de dire, Dieu te pardonne, Dieu fait ceci et cela, mais s'il n'y a pas de suite, s'il n'y a pas de concret, s'il n'y a pas de résultat probant qui nous montre la réalité de ce qu'il y a derrière et de l'autorité qu'il y a derrière la personne de Jésus, ben ça ne sert à rien. Il y a des gens qui parlent pour rien dire. Il y a des gens qui parlent et qui finalement en mettent plein la tête aux autres, hein, ou à ceux qui l'écoutent, à ceux qui les écoutent, tout simplement, et puis il n'y a rien derrière. Mais je voudrais vous dire une chose, et ça pour vous en souvenir, ce que Jésus dit, il fait. Ce que Jésus vous dit, il va vous le faire. Ce que vous attendez de Jésus, il va le réaliser. Pour vous. Parce que Jésus ne parle pas pour rien dire. Il est la parole vivante. Il est la parole puissante de Dieu. Et moi, je crois que dans mes souffrances, que dans mes difficultés, dans mes détresses, dans mes angoisses et en tout, eh bien ce que je reçois de Jésus, il va le faire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où et je ne sais pas quand, mais je sais qu'il va le faire. Parce que je vais maintenir dans la foi. Et cet homme, qui était encore l'objet finalement de cette discussion théologique sur le pardon des péchés, quand Jésus lui a dit cette parole, et il l'a dit pour lui, mais il l'a dit aussi pour tous ceux qui étaient finalement les adversaires de Jésus, eh bien, prends ton lit et marche. Et afin que vous sachiez, dit-il, que moi, le Fils de Dieu, j'ai le pouvoir, eh bien, de pardonner les péchés. Voilà cet homme à l'instant qui se met à marcher et qui fait la preuve que Jésus est Dieu, que Jésus est tout-puissant, que tout ce que nous pouvons lui demander, eh bien, il l'accomplit. Tout simplement. Ça, c'est formidable. Lequel est le plus aisé de dire ? N'importe quel homme, d'ici ou d'ailleurs, eh bien, a la capacité de prononcer ces paroles, tu es pardonné de tes péchés. Car, je le dis et je le répète, tout simplement, les résultats du pardon ne sont pas visibles. Ça ne va pas changer la face du monde et ça ne va pas me changer si moi je crois que je suis pardonné. Vous n'allez pas vous en apercevoir, mais moi je le sais. Et si vous avez besoin de pardon de péché, vous allez le savoir, parce que ça vous concerne personnellement. Et un des premiers signes du pardon des péchés de Dieu, c'est que je recouvre la paix intérieure. Quel soulagement lorsque nous sentons pardonnés de Dieu. C'est comme un fardeau. Au moment où nous nous sommes convertis, moi je me souviens, ça remonte déjà à quelques années, hein, même décennies, j'ai senti qu'il y avait, c'était un dimanche après-midi, j'entendais ce message comme vous l'entendez, hein, j'avais 20 ans, et je me souviens qu'il y avait un message qui m'a bouleversé. Le prédicateur, le pasteur, parlait sur le pardon, la repentance. Et je me sentais vraiment malade, ça va ensemble, hein, mais malade intérieur. Vous ne voyez peut-être pas à l'extérieur, mais en tous les cas mal. Et à ce moment-là, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, je lui ai demandé pardon, je me suis repenti. J'ai pleuré même. Quand je suis rentré, il y avait quelque chose qui avait changé dans ma vie. Comme une légèreté, comme un air pur qui était venu dans ma vie. Ça, c'est extraordinaire, ça s'appelle la repentance. Ça, c'est une expérience merveilleuse. Oui, moi, je l'ai ressenti. Bon, ça se voyait pas. Pardonner, hein, c'était pas marqué là, hein, mais je l'étais. Voilà. Et après, c'était toute une suite de bouleversements visibles après dans ma vie. Hein. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses ont été transformées. Il faut passer par là, mes amis. Il faut que vous receviez le pardon de vos péchés. Il faut que vous demandiez pardon au préalable de vos péchés. Et vous allez voir que vous allez être heureux. Quel soulagement! La culpabilité est une paralysie. La culpabilité est un cancer. La culpabilité est une maladie chronique qui n'en finit jamais et qui a des fois des hauts et des bas, mais qui ne nous laisse jamais en repos, qui nous tourmente jour et nuit. C'est une véritable persécution. Mais à partir du moment où j'ai demandé pardon, que je crois que Jésus m'a pardonné, que je me pardonne moi-même, faut pas l'oublier ça, hein. Alors à ce moment-là, eh bien, on rentre dans une disposition de liberté. Je suis devenu libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et cet homme dont nous parlons, le paralytique, un pauvre homme qui ne pouvait pas, qui était prisonnier dans ses jambes ou dans ses pieds, je ne sais pas, mais il ne pouvait pas marcher, eh bien, a été libéré de l'intérieur et ça s'est manifesté vers l'extérieur. C'est qu'à l'instant même, quand il a cru, eh bien, il a sauté en l'air, enfin, façon de parler, mais il s'est mis à courir, il a pris son lit et puis il est passé devant tout le monde. C'est quand même étonnant comme preuve, non ? Je peux vous dire que ceux qui étaient en train de murmurer contre Jésus, pof, là, ça leur a fermé la bouche. À tel point que nous avons dans la suite du texte, il nous est dit, mais de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, il sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu. Fini la religion, là. Hein. Fini un peu, là, tous ces gens qui racontaient de tout et n'importe quoi. Et il glorifiait Dieu en disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Mes amis qui écoutez l'évangile et qui êtes en train de marcher et faire vos premiers pas, vous n'êtes pas paralysés, vous faites vos premiers pas dans la foi, dans la vie spirituelle, eh bien, vous verrez que Dieu va vous montrer des choses et vous n'aurez jamais vu rien de pareil, parce que ça va vous concerner. On ne peut plus être le même après cette rencontre avec Jésus. Avec cette expérience avec Jésus, Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que pour un homme, il y a toujours un avant et un après Jésus-Christ. J'ai toujours été étonné que dans nos livres d'histoire, même des livres d'histoire laïques, on dit toujours avant et après Jésus-Christ. Ceux qui les ont écrits ne croient pas, mais ils disent toujours avant et après Jésus-Christ. Donc c'est quand même une référence, non? Moi, j'ai eu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Je suis pas si vieux que ça, hein. J'ai pas 3000 et quelques années, hein. Je suis pas encore une antiquité. Bon. Mais toujours est-il qu'il y a toujours un avant et un après. Et dans notre vie, il y a un avant et un après. Vous voulez aller de l'avant? Ouais. Eh bien, le Seigneur va vous faire passer devant, vous allez voir. Vous allez laisser votre lit de maladie, d'infirmité, de préjugés, de révolte, de colère, toute votre vieille vie, vous allez les laisser. Vous allez laisser tomber tout ça. Allez, c'est terminé. C'est fini. Lui, il a marché à côté de son lit, il n'était plus sur son lit, hein. Et il est parti. Et il louait et glorifiait le Seigneur. C'est formidable, hein. Quelquefois, on nous dit, mais on comprend pas la ferveur que vous avez. Vous vous rendez compte? Le dimanche, vous êtes là. Le dimanche après-midi, vous êtes là. Mais vous vivez pour Dieu. Vous êtes, oh, ça doit être triste, votre vie. Ben, vous savez pas combien on est heureux. Parce qu'on a trouvé, finalement, le plus beau et le plus grand. On a trouvé le meilleur. Et oui, c'est étonnant pour les gens qui ont tant d'activités. C'est pas pour ça que c'est des gens qui ont beaucoup d'activités, ils s'ennuient pas, hein. On chante des cantiques, on est dans une famille ici. Elle est sympa, la famille du Seigneur, non? Ouais? Faut la garder sympa, hein. Eh oui! C'est extraordinaire tout ça, alors. C'est un acte divin de guérison qui confie l'acte divin du pardon. Spirituel et physique. Oui, trouver le pardon et le salut de Dieu à travers une épreuve. Je termine. C'est vrai. Cet homme, c'est ce qui s'est passé. Et Jésus s'attaque à la source du mal avant de supprimer les conséquences. On l'a vu. Jésus atteste que le premier besoin de l'homme n'est pas tant la guérison de son corps ou physique, plutôt celle de son âme. Et quand notre âme est guérie, eh bien le reste va beaucoup mieux. Oui. Et cela nous donne, et cela a donné en quelque sorte, eh bien, d'une manière évidente, cette autre parole que nous avons dans Jean, si je me souviens bien, chapitre 14 et verset 8, quand un disciple de Jésus est venu, il s'appelait Thomas ou Philippe, je me souviens plus, mais je crois que c'est plutôt Philippe, est venu voir Jésus en disant, mais Jésus, nous aimerions bien voir le Père. Hey, il avait raison, hein, nous aimerions bien voir le Père, nous aimerions bien voir Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à Philippe? Celui qui m'a vu a vu Dieu, a vu Dieu. Quand on s'approche de Jésus, eh bien on connaît Dieu. Le Dieu inconnaissable, le Dieu perdu dans l'immensité, l'incommensurable, se trouve en la réalité de nos vies à travers la personne de Jésus. C'est l'autorité de Dieu. Jésus est l'autorité de Dieu. Jésus est le pouvoir de Dieu, tant pour notre vie intérieure que notre vie extérieure. Et ça, nous sommes des chrétiens avec des convictions. Pourquoi? Parce que nous avons fait une expérience. La religion n'a jamais donné d'autre chose que des sentiments, que, quelque part, le fonctionnement d'une âme avec sa sensibilité, avec toutes ses délicatesses. Mais Jésus est venu nous donner une autre dimension. C'est pas l'âme seulement, c'est véritablement l'esprit, hein. C'est autre chose. C'est une dimension éternelle, l'esprit. Et quand il est question de cet homme, finalement, qui est guéri dans son corps, mais qui est sauvé parce qu'il a le pardon des péchés, ça, c'est une autre affaire. Et c'est ce que Dieu nous propose encore. Alors, est-ce que nous voulons que Jésus, finalement, eh bien, fasse quelque chose pour nous? Est-ce que nous voulons lui demander le pardon de nos péchés? Et de la même occasion, et par la même occasion, recevant le pardon de nos péchés, Jésus est capable de nous débarrasser, finalement, de toutes nos infirmités, de toutes nos maladies, et de tout ce qui empoisonne notre vie, pour que nous devenions vraiment des hommes et des femmes libres. Vous connaîtrez la vérité, nous dit Jésus dans Jean chapitre 8, et la vérité vous libérera. Merci Seigneur pour ta parole. On va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, je te rends grâce. Et je te remercie parce que ce sont des belles histoires que nous avons dans la Bible, dans l'Évangile. Des histoires, Seigneur, d'hier, parce qu'elles ont touché, Seigneur, des hommes et des femmes qui sont perdus dans le temps, Seigneur, dans l'histoire, mais nous leur ressemblons. Les uns et les autres, nous ressemblons à tous ces gens. Nous ressemblons à ce paralytique. Nous ressemblons à cette Samaritaine. Nous ressemblons, en effet, Seigneur, à cet homme qui était là, possédé par des forces mauvaises et qui le troublait. Nous sommes semblables également à un Bartimée aveugle. Oui, Seigneur, sur ce plan-là, nous ne sommes que des hommes. Et nous traînons, Seigneur, souvent, des infirmités, des maladies, des choses qui sont chroniques ou peut-être même aiguës, des souffrances en tous les cas. Nous pouvons souffrir de l'intérieur, nous pouvons souffrir de l'extérieur. Nous avons toutes sortes de troubles. Mais, Seigneur, les pages de l'Évangile sont pleines de guérisons. Les pages de l'Évangile nous rapportent des choses extraordinaires qui étaient des miracles, des délivrances formidables. Mais, Seigneur, nous voulons croire que la parole de Dieu demeure, que Jésus est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement, et que les hommes d'aujourd'hui, nous avons le même besoin, en effet, Seigneur, que tu agisses dans notre vie, dans la mesure, Seigneur, où nous venons vers toi, où nous sommes portés vers toi comme cet homme, et ainsi, Seigneur, tout simplement t'apporter notre misère, te demander pardon de nos péchés. Pardonne ma pauvre vie, Seigneur. Pardonne mes fautes, celles que je sais, celles que je connais, celles que j'ignore. Mais Seigneur, pardonne-moi. Eh bien, Seigneur, tu es capable de le faire si je suis sincère au fond du cœur. Et à ce moment-là, tu t'occuperas du reste. Tu es capable de me délivrer de toutes mes prisons, de toutes mes paralysies, de toutes mes maladies. Seigneur, je le crois de tout mon cœur et je te demande de visiter mes amis qui entendent ta parole, qui reçoivent ta parole et qui croient que dans le nom de Jésus, eh bien, est le nom tout-puissant de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.